entre Dumbushima et Okatcha-Oriental. J'ai réfuté totalement cette histoire.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'actifs de maîtrise vivante, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait mis en place en 2012 un plan pour améliorer la desserte en eau potable. Ce plan prévoyait la construction d'une vingtaine d'ouvrages de desserte en eau potable afin d'augmenter ses eaux d'environ 35% entre 2012 et 2016. Mais nous savons que le problème des dessertes en eau se pose avec acuité en milieu rural dans le pays. C'est pour cela que nous en parlons avec vous, la situation des dessertes en eau potable dans votre milieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la desserte en milieu rural? Julie César est à la réalisation de cette émission mise en onde par Alain Goy. Et la Méji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. 081-890-4969. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Méji.
La République démocratique du Congo connaît assez de difficultés des dessertes en eau potable et ces difficultés se présentent encore beaucoup plus en milieu rural. Quelle est la situation dans votre milieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la desserte? Surtout en ce qui concerne les milieux ruraux, nous en parlons avec vous dans cette émission. Mais nous avons associé à cet échange M. Georges Cauchy, qui est directeur national de l'hydraulique rurale. Un service attaché au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Monsieur Cauchy, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourriez-vous d'abord donner un peu plus de précision auprès de nos auditeurs? Comment se structure la desserte en eau en RDC?
De la façon, il y a une précision d'abord à donner, parce que en République démocratique du Congo, il y a deux ministères, disons trois, qui s'occupent de l'eau en RDC. Vous avez le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, et qui s'occupe généralement de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain à travers la régie des eaux, qui est devenue aujourd'hui une société commerciale.
Oui.
Et vous avez les services nationaux des hydrauliques rurales, qui a son ancrage au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui lui s'occupe de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Évidemment, vous avez le ministère de l'Environnement qui, lui, s'occupe des ressources en eau en général en République démocratique du Congo.
Et quand on regarde aujourd'hui la situation, pour nous avoir un peu une idée qui représente la desserte en eau, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural?
Bien, ici, aujourd'hui, nous sommes autour de 26%. Globalement. Mais un peu plus en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu rural, nous tournons aujourd'hui autour de 20%, mais nous n'avons pas encore des statistiques fiables pour donner exactement, n'est-ce pas, le chiffre de la population qui a accès à l'eau potable en milieu rural.
Mais, oui, allez-y, oui.
Mais de toutes les façons, nous sommes en train de faire le nécessaire de manière à inventorier toutes les réalisations qui ont été faites il y a 5 ans au moins, et de manière à ce que nous ayons une idée exacte des ouvrages réalisés et de la potentialité d'approvisionnement à l'eau potable de la population.
Mais on sait que vers les années 90, disons des années 80, on a vu la régie des eaux dans le temps déployer même des stations de captage dans presque beaucoup de territoires, qui pouvaient déjà être, pour ceux qui ont voyagé à travers le pays, on sut qu'il y en avait comme ça qui existait, ce qui pouvait permettre, et ce qui était dans les milieux urbains, d'être approvisionné, mais aussi dans le milieu rural, on voyait dans beaucoup des districts des stations de captage de la régie des eaux, mais on sait des difficultés qu'on a connues, et à un certain moment, ça n'a pas pu continuer à produire comme il faut. Mais alors, en ce qui concerne l'approvisionnement en milieu rural, c'est quoi au juste? C'est aussi l'un des services de la régie des eaux, ou ce sont d'autres services qui s'occupent effectivement de construire des ouvrages pour donner l'eau à la population?
Mais, je veux donner d'abord l'histoire. Ok? Au départ, c'est la régie des eaux qui s'occupait de l'approvisionnement en eau potable sur toute l'étendue du pays. La tâche était grande. Si bien qu'à côté, on a créé le service national hydraulique rural, qui est né des cendres, n'est-ce pas, des petites stations, des brigades hydrauliques rurales. C'est seulement en 1983, n'est-ce pas, mm-hmm. quand le dauphin Kamita Thomas-Samba hein, a créé le service national du droit rural pour pallier un peu à cette difficulté.
Mm-hmm.
Au départ, il y avait la station, la brigade de Rutshuru, au Nord Kivu, la brigade de Nsioni, au Bas-Congo, ainsi que la brigade de Nganajika, au Kasaï Oriental.
Oui.
En 1983, il a unifié tout ça et il a créé un service national qui est né, bien éventuellement, sur le centre des ouvrages réalisés par le Fonds du bien-être indigène, à l'époque où
mm-hmm.
Au départ, c'était ça. Donc, il y avait trois stations et une direction nationale. Et après, bien éventuellement, le service national de l'agriculture a évolué. On a créé beaucoup plus de stations d'hydro-électorale.
Mm-hmm.
Donc, au Nord Kivu, on a créé, en dehors de Rutshuru, on a créé la station d'hydro-électorale de Kiroché. Et au Kasaï oriental, on a créé Ngandajika, Luputa et Lusambo. Au Katanga, on a créé les stations de Kabongo, Malimankulu et Sandoa.
Mm-hmm.
Au Bandundu, on a créé la station de Misele, Kayemba et Idiofa. Au Bas-Congo, on est resté qu'avec une seule station, la station de Kizangwete. Dans la province orientale, on est resté aussi avec une seule station, c'est la station de Bounia.
Mm-hmm.
Au Sud Kivu, on a créé la station de Baraka. Et au Maniema, la station de Kasongo. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Kasai occidental, on a créé Mweka et Dibaya.
Mm-hmm. Donc voilà. Dibaya précisément à Chumbulu.
Dans les territoires.
On est tout dans les Dibaya, voilà.
C'est ça, ça connaît le développement en général mm-hmm. du service national rural. Parce qu'on a bénéficié à l'époque du financement de l'UNICEF,
mm-hmm.
premièrement, et deuxièmement, dans un deuxième temps, on a bénéficié des gros financements de l'USAID.
Mm-hmm. Mais quand on regarde vous avez évoqué ces stations, mais on regarde aussi les difficultés, si peut-être il y a d'autres choses à ajouter avant qu'on puisse voir les difficultés. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne soit plus à mesure de...
Tout
à
fait, j'y arrive.
Mmh.
J'y arrive.
Voilà.
Il y avait un grand financement.
Mmh.
On a créé, c'est-à-dire qu'il y avait des moyens financiers. Mais avec la crise des 90,
mmh.
Okay, mmh. il y a eu rupture de la coopération structurelle. N'est-ce pas?
Mmh.
Donc le pays n'était plus assisté. C'est à ce moment-là que vous avez, nous avons connu, n'est-ce pas, les, comment dirais-je, j'ai marqué du sens, au niveau des ouvrages déjà réalisés. Que ce soit au niveau de la régie des eaux et au niveau des services nationaux des eaux rurales.
Mm-hmm.
Parce qu'on bénéficiait généralement de fonds venus de l'extérieur. Les pays n'avaient pas suffisamment de moyens financiers de manière à mener correctement les programmes d'approvisionnement en eau potable, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Et cet apport-là venait, n'est-ce pas, de la coopération multisectorielle et, mmh. et bilatérale.
Mmh, voilà.
Voilà.
On a connu des difficultés. Il y a un moment, quand même, le pays s'est ressaisi. La coopération a été reprise. Aujourd'hui, quels sont les efforts qui ont été fournis d'une manière brève pour améliorer quand même?
Mais aujourd'hui, nous avons connu un moment de transition
mmh.
avec les ONG. Les ONG qui, la plupart, étaient des ONG étrangères. Ok, c'est à ce moment-là que nous n'avons plus les statistiques. Il faut pas que chacun travaille de son côté.
Mm-hmm.
Donc il n'y avait pas une structure qui pouvait, comment dire, encadrer tout ce qui était réalisation par les ONG. Bon, c'est seulement il y a quelques années, on a ressuscité le Comité national d'action de l'OSNSMO, qui est une coordination nationale, une coordination, comment dirais-je. Qui prend en compte plusieurs ministères.
Mm-hmm.
Ok? Et c'est à ce moment-là seulement qu'on a commencé à voir certaines données de terrain sur les ouvrages réalisés.
Mm-hmm.
Je vous dirais qu'il y a eu un grand pas qui a été fait en ce qui concerne les ouvrages réalisés en milieu rural par des ONG. Donc nous sommes aujourd'hui en train de récolter toutes mm-hmm. ces données
oui.
De manière à avoir des statistiques vraiment fiables
mm-hmm.
pour donner la vraie information en ce qui concerne les taux de la population qui a réellement accès
à l'eau potable.
Et vous savez aussi que c'est seulement vraiment en 2017 que sur le monde du chef de l'État, sur son intervention personnelle, nous avons eu un financement au niveau du service national de l'eau rurale, d'un montant de plus ou moins 25 millions de dollars.
Mm-hmm.
Et ça nous a servi à acheter des équipements de forage, n'est-ce pas,
mm-hmm.
qui est disséminé à travers tous les pays. Donc, Actuellement, les services d'incendie de l'État disposent plus ou moins 66 machines de forage sur l'ensemble du pays. Donc, il n'y a pas un seul coin du pays aujourd'hui où on manque un atelier de forage.
Voilà, c'est ça. Ok, on va revenir parce qu'il faudrait aussi que les auditeurs comprennent comment cela fonctionne, qu'est-ce que ces machines font, comment on doit accéder à cela, autant de problèmes, les efforts qui sont fournis. Nous en parlons avec vous, auditeurs. Nous avons besoin aussi de vos témoignages, de ce que vous pensez qui doit être fait pour améliorer la desserte en eau potable en milieu urbain. Vous avez suivi, c'est sous la responsabilité de la régie des eaux et en milieu rural avec le service national de l'hydraulique rurale 081-890. 63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Franck, vous êtes à Vienne. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer la desserte en eau en ce qui concerne particulièrement les milieux ruraux, Franck?
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Bonjour à vous, bonjour à l'invité, bonjour à votre équipe technique et à tous les amis avec qui nous allons nous échanger. Assurer l'introduction de l'invité et votre propre introduction, je crois que le problème d'accès à l'eau dans certains coins de la RDC ne frappe pas seulement des milieux ruraux, mais je crois que ça frappe beaucoup des milieux urbains aussi. Parce que par rapport à mes propres constats, dans une ville comme Kinshasa, ça serait peut-être exagéré si on doit nous dire que Kinshasa est suffisamment alimenté en eau potable dans les 24 communes. C'est question que nos compatriotes qui habitent Mongafula puissent aussi peut-être intervenir pour nous rappeler combien de fois par semaine ils sont souvent desservis en eau. Et si nous devons aller dans certaines provinces, dans la province de Bandundu, qui est une grande ville, qui a actuellement plus de 300 000 habitants, les amis de Kikwit qui me suivent pourront aussi les témoigner, si dans tous les coins de Kikwit, ils ont accès à l'eau potable ou à l'eau de la régie des eaux. À part Kikwit, je me réfère encore à Kenge. C'est une cité qui tend à devenir une ville, avec, je crois, plus de 20 000 habitants. Je venais d'être là au mois de juillet. Je ne veux pas dire dans quelles conditions on se débrouille pour se laver, mais j'ai dit à l'invité que le problème d'accès à l'eau potable en République démocratique du Congo frappe beaucoup de milliers de villes congolaises. Pas seulement les milliers ruraux, même des grands centres urbains. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, personnellement, ça m'a toujours surpris de voir que la RDC, c'est un pays qui est traversé par des dizaines, des centaines de cours d'eau. Mais le problème d'eau n'a jamais été repensé. Je crois que c'est un problème d'organisation. Monsieur Pierrot, dans certains pays, vous allez voir des cités et des villages vraiment éloignés des rivières, mais l'accès à l'eau est vraiment permanent. Qu'est-ce qui manque chez nous? Je crois que c'est un problème d'organisation. Il faut doter ces services de distribution d'eau des nécessaires afin qu'on puisse vraiment servir aussi la population. Il faut aussi pour cela placer les zones qu'il faut là où il faut. Votre invité venait d'évoquer le cas de Nisselé. C'est à quelques kilomètres de Massamouna. J'aimerais qu'il me dise aussi la situation d'accès à l'eau à Massamouna qui est à moins de 10 kilomètres de Nisselé. Parce que là, je connais bien la région. Il évoque Nisselé, c'est vrai. S'il nous parle aussi de Massamouna, j'aimerais qu'il me dise la situation d'accès d'eau à Massamouna. Comme ça, on pourra aussi voir si vraiment ce qu'il est en train de dire, ça répond aux besoins locaux de la plupart des citoyens congolais. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Franck. Vous nous appelez des GN très loin de la RDC, mais avec une cartographie des localités dans la province de Bandundu où le problème se pose. Vous estimez que le problème, ce n'est pas seulement en milieu rural, c'est aussi en milieu urbain. Mais pour vous, la solution, c'est d'abord l'organisation et puis il faut doter les services de nécessaire, de ce qu'il faut pour résoudre la question, mais aussi l'expertise nécessaire en parlant des hommes qu'il faut. Merci beaucoup, Franck. Nous avons Aimé Minakou qui est à Isiro, en province orientale. Bonjour Aimé.
Bonjour Pierrot.
Donc, on vous écoute par rapport à l'accès à l'eau. Ce qui doit être fait par exemple à Isiro aujourd'hui, c'est quoi? Comment vous faites pour accéder à l'eau potable?
Bon, ici à Isiro, je dirais qu'il y a 15 qui supervise ces problèmes en eau potable. Disons, c'est la régie des eaux.
Mm-hmm.
Ici à Isiro, on a ce service de régie des eaux, mais c'est pas vraiment tout le monde qui a accès à l'eau. Disons, c'est rien que ceux qui ont beaucoup d'argent, parce que ces services ont payé cher à la fin du mois. Bon, disons, par semaine, on envoie l'eau 3 fois par semaine. Et pourtant, les besoins en eau est quotidien. Bon, moi, je voudrais dire ceci. Les autorités peuvent se mobiliser pour faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau potable. Parce qu'ici, vraiment, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment assez d'eau potable. Je demande surtout aux autorités de se mobiliser pour que tout le monde ait au moins accès à cette eau potable. C'est ce que je veux dire.
Merci, merci beaucoup, Aimé. Vous dites que d'abord, l'eau coule 3 fois par semaine au robinet à Isiro, et ceux qui peuvent accéder à cette eau, ceux qui ont des moyens, parce que les factures, ça coûte cher. Vous interpellez, vous lancez un appel à la direction des autorités pour voir comment s'impliquer afin de permettre à chaque personne à Isiro d'accéder à l'eau potable. Mathieu, vous êtes à Kananga, au quartier occidental, bonjour.
Oui, merci bien pour la parole, M. Siro.
On vous écoute. Comment vous débrouillez aujourd'hui à Kananga pour accéder à l'eau potable?
Merci bien. C'est le prophète Mathieu David à Kananga. À propos de notre thématique de ce jour, concernant la construction des puits d'eau sur l'ensemble du territoire national, reste restreinte résolue jusqu'à ce jour, M. Siro. Je considère des forces d'alerte ici à Kananga, où je me trouve en particulier, et sur l'ensemble du territoire national, malgré des ONG qui se débrouillent par-ci par-là avec leurs maigres moyens, qui ne peut en aucun cas suffire pour aider l'ensemble de la population, surtout aux entités rurales. C'est la cause principale des maladies de tout genre que nous registrons ces derniers temps. Je vous le dis sans mâcher les mots, que la population se serve de l'eau trop sale, impropre à la consommation. Nous décrions cette situation alarmante, puisque l'eau, c'est la vie. Comment ça ne répond pas aux normes? Ça devient maintenant l'eau de la mort. Nous savons comment la régie des eaux s'est devenue dans des villes urbaines, en donnant de l'eau partiellement, et je ne considère pas propre à la consommation pour manque de produits nécessaires. Mais, dans nos villages, depuis les eaux, c'est le désastre. Et le gouvernement cesse de détruire la population. Merci.
Merci beaucoup, Mathieu. Vous estimez qu'il y a des problèmes dans les villages, la régie des eaux qui travaille partiellement. Les soucis, c'est d'avoir une eau de qualité. On revient à vous directement, Georges Cauchy. Vous avez suivi Franck, Aimé et Mathieu. Le problème qui se pose, c'est, comme Franck l'a dit, c'est un problème de l'organisation, de la structuration, parce que, en réalité, c'est vraiment un vrai besoin. Mais vous qui travaillez dans les services pour desservir la population en eau potable, pensez-vous vraiment qu'il y a un engagement, une grande volonté pour résoudre toutes ces questions comme on souhaitait nos auditeurs?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Franck, qui me suit à partir de Vienne. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Donc, problème de structuration, on est en train de restructurer tout ce qui est service d'approvisionnement en eau potable. Je vous dis, si c'est un problème avec l'organisation, c'est vrai. Je vous ai dit comment les ONG venaient, ils intervenaient un peu en désordre, c'est vrai. Mais maintenant, il faut canaliser les interventions, pas seulement des interventions sur le terrain, mais d'abord financières. Nous devons savoir que c'est quel service qui gère, telle structure d'approvisionnement en eau, et c'est là que l'argent doit aller, quitte à dispatcher ses agents sur l'ensemble du pays, selon les besoins, ou bien selon, n'est-ce pas, la volonté de certains bailleurs. Parce que certains bailleurs disent que non, moi j'interviens par exemple au Bandundu, moi j'interviens au Bas-Congo. Mais nous devons avoir un effet entonnoir. L'argent entre et l'argent sort par la même porte pour dispatcher. Comme ça, on verra un peu plus clair. c'est un problème de radiation, nous sommes en train de nous y atteler, et dans quelques mois, on donnera la nouvelle structuration, n'est-ce pas, des services d'approvisionnement en eau potable, comment on doit s'y prendre, comment les ONG doivent intervenir, comment l'État aussi doit faire son travail. Je reviens sur ce qu'il a dit à Kinshasa. Kinshasa, c'est vrai. Kinshasa, c'est grand. Kinshasa, c'est comme... c'est une province. Hein? C'est une ville, mais c'est une ville-province. Mm-hmm. Mais il y a un grand effort qui est fait aujourd'hui. Et vous regardez la périphérie de Kinshasa, par exemple, qui est l'Est. À côté de la régie des eaux, il y a le service national intralucural qui est en train d'approvisionner la population nationale. C'est pour pallier à cette difficulté, en attendant bien éventuellement de
voir... Et quand vous parlez de l'Est, pour ceux qui ne sont pas Kinshasa, ça veut dire...
Bon, vers l'aéroport de Gili. Mm-hmm. Donc vous prenez les quartiers, par exemple, Mikala, vous prenez les quartiers Pata, n'est-ce pas, vers...
Et là, c'est l'hydraulique, les services nationaux d'hydraulique.
Les services nationaux d'hydraulique rural.
Avec le forage.
Avec le mini-réseau. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous avons un forage, nous avons des tanks, nous avons réseau. C'est comme vous l'avez ici avec robinet.
Okay.
Mais c'est public. Mm-hmm. Parce que nous ne permettons pas encore qu'on fasse de branchement privé. Donc c'est le public, tout le monde doit s'approvisionner et au bord de frontière.
Mm-hmm.
Il a parlé des problèmes de Kikwit. Moi, je crois qu'il y a longtemps qu'il était à Kikwit. À Kikwit, Kazamba, il y a le service national hydraulique qui est intervenu pour approvisionner Kazamba en eau potable. Donc il y a de cela plus de 5 mois que ces mini-réseaux de Kazamba existent. Et nous avons aussi approvisionné la partie Kanzombi en eau potable. Pour le centre de Kikwit, évidemment, il y a la régie des eaux qui est en train de travailler sur l'investissement des KfW, donc l'Allemagne, pour l'approvisionnement de Kikwit en eau potable.
Mm-hmm.
Il est revenu sur Kenge. Quand il était à Kenge, effectivement, moi, je suis passé, et je crois une semaine après, avec le ministre délégué aux finances, nous avons constaté la même chose. Kenge était en arrêt, les équipements de la région étaient en arrêt. Mais depuis Kenge, on a réhabilité, et les services nationaux de l'UQRA est intervenu aussi avec des fonds du gouvernement central, avec le forage d'un puits, et plus la mise en place d'un groupe électrogène de 50 kVA qui donne déjà de l'eau à la population, et actuellement, en attendant bien éventuellement les expansions prévues par la régie des eaux et sur financement aussi de KfW. Il a parlé de Nicelé. Nicelé est entièrement couvert aujourd'hui. Hein? Et moi, je crois que...
En fait, il parlait de Moussamouna qui est l'un... Nicelé. Il n'est pas l'un de Nicelé, oui. Voilà.
Nicelé est couvert entièrement et Moussamouna aussi. S'il rentre aujourd'hui à Moussamouna, il trouvera que le service national de l'Église a fait un grand travail sur financement du gouvernement, ce financement à 100% du gouvernement. Et Nicelé, aujourd'hui, les gens ont de l'eau potable. Donc, nous avons fait un forage de 185 mètres de profondeur, mis en place des réservoirs et un tour de 10 mètres avec 10 bornes fontaines à des robinets. Ce n'est pas suffisant pour le moment, donc nous attendons des extensions à faire. Donc, par rapport à ça, il y a un effort qui est fait par le gouvernement et tous ces travaux-là, c'est sur financement des gouvernements à 100%. Ce n'est pas un financement extérieur. Ça, c'est pour M. Franck. Mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Pour répondre à ma demoiselle ou madame Elimina Koyusio, bien éventuellement, comprenez tout simplement que coûte un litre de carburant au niveau du CIO. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est entièrement sur thermique, sur le groupe thermique, ce qui fait que la production de mètres cubes d'eau au niveau du CIO coûte cher et ça se répercute sur, bien éventuellement,
la facturation de la régie des
eaux. Mais il y a le service national d'hydraulique rurale qui va acheminer d'ici quelques mois, parce que tous les matériels se trouvent déjà à Kisangani, des équipements de forage, n'est-ce pas, pour travailler un peu à côté de la régie des eaux et pour aider la population. Pour M. Mathieu à Kananga, c'est vrai, moi-même j'ai travaillé à Kananga, il y a la coordination des services nationaux d'hydraulique rurale à Kananga, il y a des ateliers de forage à Kananga, mais il doit avoir un bémol dans ce sens qu'il y a des projets prises. Prises, c'est les projets de réhabilitation des infrastructures sociaux, de base, n'est-ce pas? C'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement. Donc, il y aura réalisation au niveau de la province de Kasaï occidentale des 30 mini-réseaux dans des cités de plus ou moins 20 000 habitants. C'est un projet qui a été déjà signé. Et l'unité de gestion est déjà en place, Donc les ouvrages vont commencer en 2015.
Mm-hmm.
Donc il y aura, à côté des 30 mini-réseaux qui seront réalisés, il y aura aussi la réhabilitation des 30 écoles, la réhabilitation des 30 centres de santé, et bien éventuellement, tout un programme et a donc OIG financé par la banque. Donc ça, la Banque africaine de développement, et ça c'est sur les deux provinces. C'est la même chose, le même nombre d'ouvrages dans les Kassai orientales et le même nombre d'ouvrages dans les Kassai occidentales. Et ça c'est un projet de plus ou moins 105 millions d'unités de compte, c'est-à-dire traduisé à peu près 157 millions de dollars américains.
Mais pour revenir à la situation à l'organisation, je crois qu'il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'observateurs pensent que la grande difficulté aussi que nous avons dans le domaine de l'eau, c'est l'absence d'une loi spécifique, n'est-ce pas? Il y a ces projets pour avoir un code qui porte sur l'eau, parce que des fois on s'est dit il y a beaucoup de services qui entrent en ligne de compte dans la gestion de l'eau. En sommes-nous aujourd'hui avec les discussions autour d'un code qui doit quand même gérer le secteur de l'eau?
Bon, ça a changé de nom depuis, ce n'est plus le code de l'eau, je crois que c'est les directives pour la gestion de l'eau en général.
Mm-hmm.
Bon, les documents se trouvent actuellement au Parlement, ça a été adopté au niveau du Sénat, et maintenant c'est le Parlement maintenant qui doit gérer ces dossiers. Je crois que bientôt ils vont siéger. La rentrée parlementaire, c'est je crois au mois d'octobre.
Ça peut quand même contribuer à clarifier la situation dans le domaine de l'eau.
Exactement, exactement. Mmh. Ça va vraiment clarifier la situation. Et évidemment, là-dedans aussi, il y aura la création des services publics de l'eau, pourquoi pas.
Nous avons écouté Jean Dédieu, qui est à Kikuit, Dr Mokelenga Issa Kinshasa, et Bobu Kaka, qui est à Lubumbashi, au Katanga. Je rappelle encore que le problème des dessertes en eau est au centre de notre échange, que vous soyez en ville ou en milieu rural. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer? Parce qu'on sait que le problème se pose déjà, mais les pistes et les solutions que vous avez, vous, consommateurs, nous intéressent dans cet échange. 081-890-6315, le numéro d'appel pour intervenir en direct. Je rappelle encore que nous avons associé dans cette émission, M. Georges Cauchy, qui est directeur national de l'hydraulique rurale. Vous avez besoin d'intervenir, mais vous pouvez aussi déposer également votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Il y a des auditeurs qui ont réagi, qui ont proposé aussi des pistes de solutions. Nous avons par exemple le pacifique Yakili Mali qui nous a écrit des Goma. Au Nord Kivu, il dit il y a un mois que l'eau n'écoule pas au robinet, pas même l'eau sale, si on peut le dire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui alors que nous sommes entourés des lacs? Pourquoi ne sommes-nous pas à mesure d'avoir l'eau potable? C'est Jonas Vagheni de Mahagi en province orientale. Il dit ceci, il y a un mois, que j'ai passé un mois dans la ville de Butembo où j'ai constater que quand il pleut, là il parle de la qualité de l'eau qui coule au robinet. Pascal Bouroumé qui est à Arou en province orientale, il dit ceci, la situation est critique chez nous, même les ONG qui travaillent en milieu rural nous ont abandonnés. Nous à Arou, on ne sait pas où aller s'approvisionner en eau potable. On pourra voir avec notre invité s'il y a un projet pour les habitants de Arou en province orientale. Yvan Dalla de Kinshasa, il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas d'eau potable. Faudrait-il aujourd'hui que les gouvernements puissent s'investir dans beaucoup de quartiers à Kinshasa? Plusieurs initiatives, mais la volonté pour les mener à terme, c'est ce qui se pose comme problème aujourd'hui. Voilà quelques réactions des auditeurs sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean Dédieu, vous êtes à Kikuit dans le Bandundu. Bonjour. Mais là, Jean Dédieu, on va voir avec la réalisation pour améliorer votre intervention, parce que là, vous sortez très, très difficilement. On met souvent à la réalisation que c'est un problème du téléphone, hein, on ne sait pas vraiment mieux vous suivre, on pourra voir. Mais en attendant, retournons à Kinshasa. Docteur Mukalinga, vous êtes avec nous, bonjour. Docteur Mukalinga, bonjour. Et là aussi, la ligne pose problème avec Dr Richard ici à Kinshasa. Nous allons à Lubumbashi, Bobukaka. Vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, et nous dégageons les pistes de solutions pour arriver à améliorer la desserte en eau dans nos milieux. Quelle est votre proposition?
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole, mais moi je voulais juste vous dire que comment voulez-vous qu'il y ait la desserte en eau potable dans les milieux ruraux au moment où les responsables de la structure étatique chargée de l'hydraulique rurale se permettent de désaffecter les engins tels que les camions de forage affectés dans les provinces ou dans les milieux ruraux pour cette mission à des fins privées. Je me rappelle bien ici, un jour, il y a de cela plus d'une année, un responsable de la province du Kasaï, si oriental ou occidental, ça devrait être le directeur du cabinet du gouverneur de l'une de ces provinces-là, était venu ici à Lubumbashi pour saisir l'officier de police, M. Donat, ici à Lubumbashi, en disant que les camions de forage qui étaient destinés à la province de Kasaï ou de Kananga étaient traînés encore ici à Lubumbashi et étaient en train d'effectuer des travaux pour des comptes privés dans l'un des quartiers de la ville de Lubumbashi. Et sur la dame qui gérait les camions et qui utilisait les camions de forage pour des fins privées. Et à un moment donné, il y avait eu des œuvres là, venant toujours de Kinshasa, disant que on ne pouvait pas mettre la main sur cette dame parce que, vous savez, la dame jouissait de certaines couvertures parce que tout se faisait sous la couverture de certaines autorités au niveau de Kinshasa. Et l'autorité provinciale qui avait été dépêchée à Lubumbashi pour récupérer les véhicules, je pense qu'il était rentré même réduit. Alors, avec des histoires comme ça, comment pouvez-vous accepter ou comment pouvez-vous réaliser que dans le milieu rural, qu'il y ait vraiment une réalisation de déchets en eau potable pour desservir la population? C'est vraiment impossible, c'est-à-dire qu'il y a certaines histoires qui sont parfois les mêmes animateurs des structures des structures chargées à desservir la population en eau potable dans les milieux ruraux, qui détournent leur mission et qui en font leur affaire privée. Et vous savez, nous sommes dans un pays peut-être où des fois l'impunité règne, les gens qui se permettent de faire du n'importe quoi. L'autorité étatique, par exemple, le chef de l'État peut affecter, par exemple, les moyens dans les provinces, mais les gens qui sont affectés à de telles structures,
oui,
ils font autre chose sans qu'il y ait, par exemple, les suivis, tout ça. Et ça, c'est désolant. Vous, comment pouvez-vous accepter que vous cherchez aussi que dans le milieu rural, qu'il y ait une desserte en eau potable comme il se doit, au moment où même dans les milieux ruraux, pardon, dans les milieux urbains où nous vivons, accéder à une eau potable, c'est toute une mer à boire. Voilà.
Merci, Boubou Kaka, pour votre intervention. On pourra demander à notre invité s'il reconnaît qu'il y a eu cette affaire, un camion destiné au forage au Kasaï occidental ou oriental qui s'est retrouvé dans un quartier à Lubumbashi en train de faire des travaux privés, jusqu'au moment où l'officier de police judiciaire a mis la main sur les camions et la dame incriminée. Les ordres ont été donnés pour qu'on libère la dame. On pourra voir avec notre invité s'il reconnaît dans son service cette affaire. Mais déjà, vous vous inquiétez du fait que si on peut détourner ce qui est destiné à l'usage public à l'usage privé et que les gens ne soient pas punis, cela ne peut pas encourager à continuer à investir, à permettre à ce que la population ait accès à l'eau potable dans son milieu. Merci beaucoup, Boubou Kaka. Dieudonné, vous êtes à Walikale, au Nord-Kivu, bonjour.
bonjour monsieur. Bonjour à l'invité, hein, ainsi que aux auditeurs de la radio Capi.
Non, on vous écoute, Dieudonné.
Merci beaucoup. Je pense que Mohamed Blavi, quand je suis en train d'intervenir dans notre radio, la radio de la paix, la première radio de la République démocratique du Congo que j'aime trop, chaque fois je déplore, puisque nous n'avons pas seulement de mauvais côté pour nos autorités. Et je pense que nous ne sommes pas aussi pessimistes, mais bientôt nous sommes aussi optimistes dans certaines choses. Mais avant de réagir et donner les informations sur le débat du jour, laisse-moi vous dire qu'ici chez nous, à Calais, vraiment, nous n'avons pas accès à nos potables. Dans une émission, ce qui s'est passé dans votre radio là-bas, au Capi Service, j'ai dit encore cela donc aux autorités. Ici chez nous, c'est toute autre chose, monsieur Pierron. Donc, s'il faut avoir eau potable, il y a le système maintenant des jeunes garçons qui circulent avec leur vélo en train de vendre les bidons. Donc, un bidon d'eau coûte ici chez nous 300 à 400 francs congolais. Donc, s'il faut avoir maintenant eau potable, il faut chercher des jeunes gens des vélos qu'on appelle communément ici sur les pistes. Je ne sais pas si vraiment ça a vraiment une réalité dans un pays. Voilà, pour nos autorités, j'aimerais dire ceci. Il faut savoir que la RDC, c'est un grand pays. Et pour être dirigeant dans ce pays, il faut savoir d'abord la superficie de ce pays. Et comment vous allez maîtriser ce pays? Puisque nous n'allons pas seulement parler dans toutes choses, il y a ça ne va pas. Si par exemple l'insécurité, ça ne va pas. Dans toutes choses, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas bien. Et je pense qu'à mon humble avis, l'invité peut vraiment nous dire la vérité. Est-ce que sur les milliers ruraux sont autorisés aussi à avoir l'eau potable? Parce que dans certains cas, si je verrais, il y a une ONG qui est en train vraiment de faire des canaux d'eau. Mais jusqu'à maintenant, rien, il n'y a pas de ce truc. Il y a rien.
Dieudonné, s'il vous plaît, Dieudonné, je voudrais avoir, oui. Voudrais avoir une précision. Quand vous dites qu'il y a des jeunes gens qui vendent un bidon d'eau à 300 francs, où est-ce qu'ils trouvent cette eau-là? C'est l'eau de la rivière, l'eau d'une source, l'eau de du lac? Où est-ce qu'ils tirent cette eau pour vendre à la population?
Oui, les jeunes gens ici, bon, ce sont des jeunes garçons qui portent des vélos. Et ils quittent avec des lots dans la forêt, très loin de la forêt, environ 2-3 heures dans la forêt. Et nous arrivent avec des bidons d'eau en train de vendre dans les différents quartiers. Et là, si vous voulez avoir eau potable, il faut avoir que de l'argent. C'est ça le problème que nous vécurons ici. Donc, il n'y a pas d'eau potable.
Voilà, c'est ça. En bref, on peut dire qu'à Walikale, il y a ce besoin de pouvoir fournir à la population l'eau potable. C'est ça votre souci. Merci beaucoup, Dieudonné. Gérard, vous êtes à Monéditou, au Kasaï Occidental. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à votre invité, monsieur Georges. À Monéditou, nous avons la régie des eaux avec des installations convenables. Mais la régie des eaux n'est pas à même de fournir de l'eau sur toute la ville de Monéditou, faute de l'énergie électrique. La régie des eaux utilise des moteurs à mazout, il faut des moteurs et consorts. Et les carburants coûtent cher et la régie des eaux n'est pas en mesure de faire face à tout cela. Ça, c'est un point.
Oui.
Alors, s'il y a moyen que les organisations, les organismes qui s'occupent de cela, tu peux aider la régie des eaux à fournir de l'eau sur la ville de Monéditou. Alors, Monéditou, c'est une jeune ville. C'est une ville qui existe, mais bien qu'il y a la régie des eaux, par-ci, par-là, il y a des individualités qui ont fait des forages manuels à leur parcelle. Alors, cette eau-là que nous consommons, on ne sait pas si c'est potable ou pas, mais nous consommons ça comme ça. Il n'y a aucun examen qui est fait, des tests qui sont faits là-dessus pour savoir si c'est une eau potable ou pas, mais la population est en train de consommer. Sans oublier que la plupart des quartiers aujourd'hui, ce sont des anciens cimetières. Nous ne savons pas les conséquences, ce sont les anciens cimetières, là on a enterré les gens, et aujourd'hui, il y a des fosses. Il y a des puits d'eau et nous consommons cette eau-là. C'est très dangereux pour la population. Alors, j'ai suivi l'invité de la radio Kati, M. Georges, disant qu'il n'a pas les taux. Là, c'est correct, il n'a pas les taux exacts de la population qui est desservie de l'eau potable dans les milieux ruraux. Je ne sais pas s'il a déjà fait les tours sur la RDC dans les milieux ruraux pour voir ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui prennent aussi de l'eau, des sources, des rivières qui passent, des ruisseaux qui passent, et ils prennent comme ça, ils boivent cette eau-là. Il y a des villages comme ça, aux alentours de mon rien du tout. C'est un peu ça. Alors, les structures à proposer, je ne sais pas. Alors, il faudra aussi, bon, d'abord, je reviens, pour ceux-là qui ont fait les fouilles dans leur parcelle, et aussi, il y a les gouvernements qui avaient beaucoup de taxes. Beaucoup de taxes. Alors, à un certain moment, on décourage même les gens qui peuvent faire ces puits-là dans leurs propres parcelles, parce qu'ils ne seront pas payés. C'est ce que l'État exige aussi pour avoir cela. Alors que l'eau, c'est la vie. L'eau doit en principe coûter très moins cher, parce que l'eau, c'est un besoin quotidien, de chaque jour, pour se laver, pour boire, pour laver les habits, etc. Donc l'eau, c'est la vie. Alors si l'homme congolais aujourd'hui se retrouve même dans l'impossibilité de trouver de l'eau, vous voyez, c'est là où ça nous amène. Alors, ceux-là qui s'occupent de ces histoires de l'eau, ils doivent comprendre que l'eau, c'est la vie, ils doivent faciliter la tâche pour que la population trouve de l'eau facilement.
Merci, voilà. merci beaucoup Gérard. Georges Cochion, revenons à vous. Vous avez suivi notre ami Boubou-Kata de Lubumbashi. Est-ce que vous reconnaissez dans vos services qu'il y a eu cette affaire de matériel de Kassai qui aurait été retrouvé à Lubumbashi pour un autre usage? Vous reconnaissez ça dans vos services?
Bien, merci beaucoup. Je vais apaiser mon ami de Lubumbashi parce qu'il a la mauvaise information. Il n'a pas la bonne information. Et quand les équipements sont arrivés, le point de départ pour les dispositions de matériel de la preuve de Maniema, le de Kassai et le Katanga, c'était Kasumbalesa. Donc tous les matériels devaient être dispatchés à partir de Lubumbashi.
Oui.
Voilà. Et les matériels étaient dispatchés. Mais il s'est fait que les services nationaux ont été donc le gouvernement a payé à la NCC pour le transport de ces matériels. Malheureusement, la NCC n'avait pas le moyen nécessaire, n'est-ce pas, de surbaisser, comme on appelle, pour faire déplacer les équipements
de Lubumbashi vers les Kassai.
Nous avons pris le risque de faire voyager certains matériels par route, qui est bien évidemment arrivé. Mais le monsieur qui a parlé tout à l'heure là, il est incapable de donner le nombre des équipements qui devaient aller à Kananga. Il y avait 3 ateliers de forage pour Kananga. Un est venu par route. Le deuxième est venu, il a fait pratiquement 4 mois mené du tout, sans arriver à Kananga. Nous sommes intervenus personnellement pour que les équipements arrivent. Et les équipements sont arrivés. Le matériel dont tu parles qui aurait été utilisé.
Ouais.
Écoutez, ici, en République démocratique du Congo, chacun a droit à avoir de l'eau. Si l'État aujourd'hui a acheté autant de matériel, c'est pour permettre aussi, n'est-ce pas, à des privés d'avoir de l'eau. Il n'est pas interdit à un privé d'avoir de l'eau, pourvu qu'il ait fait une demande en bonne et due forme, et qu'il ait payé, qu'il s'acquitte les droits de l'État, normalement, au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. En province, c'est au niveau de la division des ressources hydrauliques et électricité.
Cela veut dire que le matériel acheté pour le forage, un privé peut venir auprès de vous solliciter ce matériel pour avoir l'eau potable.
Tout à fait, mais il doit écrire. Le privé doit écrire, parce qu'on doit demander aussi autorisation à la hiérarchie, mais la personne doit s'acquitter des taxes dues à l'État pour l'utilisation des eaux souterraines au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, notamment au secrétaire général. Donc ça, c'est un faux problème. Je connais très bien le problème, si bien que quand on expliquait, il n'y a pas que lui, il y a les parquets, il y a eu l'ANR qui est intervenu, on a trouvé que c'était un faux problème. Aujourd'hui,
mais du moins le dossier a existé comme ça dans votre structure. Oui.
Mais ce n'était pas un dossier ou des accusations, il y a une dame qui s'occupe, non. Non.
Mais du moins, on a compris. Mais bon, si on écoute par exemple, j'ai donné des Walikale, il pose le problème chez eux, il y a le problème qui se pose, mais ça représente quoi aujourd'hui cet investissement du gouvernement pour permettre à ceux qui fait ces 80, vous avez parlé des 80, je crois bien, en termes de forage, c'est qu'il a été acheté, les matériaux ont été achetés pour l'ensemble
du pays. 66 pour le moment.
66, voilà, 66. Est-ce que vous avez dispatché en fonction des besoins à travers le pays, où il y a des endroits qui vont avoir plus, qui sont plus privilégiés que les autres?
Non, il n'y a pas des endroits plus privilégiés que les autres. Normalement, c'est en termes de district. Bon, vous savez que le nord Kivu, c'est... il n'y a pas de district dans le nord Kivu, aujourd'hui. Il n'y a pas de district. Comme dans le Maniema ou le Sud-Kivu. Donc c'était pratiquement des petites provinces, en quelque sorte. Même s'il y a une grande densité de la population. Donc, nous avons disponibilisé des équipements parce qu'au nord, si vous ne pouvez pas faire le forage, tu ne peux pas partout faire des forages. Il y a des endroits où ça demande des addictions par la gravité que nous avons déjà fait, et de nombreuses addictions par
la gravité. Sauf à Walikale.
Walikale, nous ne sommes pas encore intervenus. Vous connaissez les problèmes, il y avait des problèmes d'insécurité. Mais maintenant qu'il y a la sécurité, nous allons demander à notre coordonnateur provincial de faire une autre section vers Walikale, de trouver Walikale tombe dans la zone régie des eaux ou dans la zone rurale ou dans une zone semi-urbaine. Et puis, on proposera des solutions au niveau du gouvernement provincial pour voir ce qu'il y a à faire.
Mais l'intervention de Gérard de Monedit me conduit à cette question. Là, par exemple, on sait qu'en Bujuma, à Monedit, ou à Kananga, partout ailleurs, il y a beaucoup d'endroits où la régie a des difficultés à cause de l'absence du courant électrique pour fournir de l'eau. Est-ce qu'il y a un partenariat comme ça avec vous qui pourrait peut-être faciliter, là où on n'est pas en mesure d'avoir de l'eau parce qu'il n'y a pas du courant, et de fournir du matériel de forage, par exemple?
Non, dans ce cas-là, c'est une nouvelle technologie. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec les solaires. OK. Donc, il faut qu'on pense source d'énergie. Actuellement, vous allez à Manono, où nous allons déterminer notre mini-réseau. Vous regardez que la consommation du carburant est très, 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 très faible. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons mis des équipements solaires. Donc, l'énergie, ce que nous appelons, nous, énergie hybride. Donc, nous avons un petit groupe électrogène, d'ici KVA. Nous ajoutons des batteries solaires, nous avons des panneaux solaires et nous avons un équipement qu'on appelle HPOD qui sert à accumuler l'énergie produite et à les restituer après. Si bien que pour un fonctionnement de la partie thermique d'une heure, nous avons une restitution avec l'HPOD accumulateur de batteries pour 5 heures. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire moins d'énergie payante, c'est-à-dire la partie thermique, plus d'énergie innovante dans l'énergie solaire, et moins la tarification, elle est faible. Donc, c'est tout ce que nous avons commencé avec Manono. Nous allons continuer sur encore dans les mois à venir, et nous allons généraliser ce type d'énergie hybride à travers le pays, de manière à diminuer le coût de production des mètres cubes, et à diminuer ainsi le coût des litres vendus à la population. Parce que la population est pauvre, il ne faut pas que la population paye, la population rurale paye l'eau plus chère que la population urbaine. C'est pour cela qu'il faut chercher des énergies innovantes de manière à diminuer le coût des productions.
Nous avons encore trois auditeurs sur les antennes, mais est-ce qu'aujourd'hui, juste les difficultés, que ce soit au niveau de la régie des eaux, au niveau rural, tout ça, y a-t-il des projets du genre partenariat public-privé où des gens peuvent venir investir dans les secteurs de l'eau aujourd'hui pour faciliter aussi la tâche à l'État?
Oui, tout à fait. Par exemple, nous avons reçu des quitus de notre ministère de manière à ce qu'on puisse signer des contrats de partenariat public-privé avec des ONG, avec des privés, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent œuvrer aussi dans les domaines d'approvisionnement et en eau potable. Nous avons reçu des quitus de notre ministère parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui doit être fait. Parce que l'État que nous sommes, nous ne devons pas gérer tous ces équipements. C'est impossible à l'État de gérer tout ça. C'est peut-être la transformation du SNHR que nous appelons de tous nos voeux, qui deviendrait demain une agence d'approvisionnement en eau potable, qui céderait ou qui signerait des contrats de partenariat avec des privés pour la gestion des équipements et pour l'approvisionnement en eau potable.
Voilà. On va écouter rapidement Amici Bekindou, Claude Dissiro et Giscard Béguéménan. On pense qu'avec peut-être 35 secondes à chacun, ça pourra nous permettre de les écouter tous. Amici, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Parce qu'on court déjà vers le temps. Dites-nous en bref, en 30 secondes, comment vous vous approvisionnez en eau potable à Kindou aujourd'hui?
Ok. À Kindou, monsieur le journaliste, nous avons une société commerciale, et la Régie des eaux. La Régie des eaux, depuis que les Belges ont laissé cette société à Kindou, on ne connaît pas une évolution. Parce qu'il n'y a pas de remplacement des tuyaux, ce sont les vieux tuyaux qui sont là. Alors, j'aimerais dire ceci. La ville de Kindou a 3 communes. Et la ville de Kindou est séparée par le fleuve Congo. Il y a une commune d'Alongoli. Cette commune-là est située. Depuis que cette commune est appelée commune, depuis la création de ce monde, la commune n'a jamais eu de l'eau potable, même pas de source. Là, on prête des puits. Et ces puits-là ont des communications avec des toilettes. Alors, je me dis ceci. À un certain moment, la ville de Kindou, précisément la commune d'Alongoli, il y avait un ingénieur à Kilimani. Il avait initié un projet à 9 km de route de Kalima. Et à partir de Kalima, on peut tirer, on peut attraper de l'eau là-bas potable. Et puis, cette eau-là, on va acheminer ça dans la commune d'Alongoli pour qu'il y ait une distribution d'eau potable. Mais ce projet-là est tombé et comme ça, et on ne connaît plus ce qu'on va faire encore. Alors, voilà. Je suis en train de me poser la question. Même ceux-là qui sont ravitaillés par la régie des eaux, il y a des problèmes.
Mais parce que, Amis, s'il vous plaît, parce que là, on a que deux minutes et il y a encore deux personnes sur les antennes. Si on vous écoute, vous avez dit, il y a la commune à Longoli qui, depuis qu'elle a été créée, et n'est pas approvisionnée en eau plutôt, ceux qui ont de l'eau, c'est pas tous les jours qu'ils ont de l'eau. Mais si on vous écoute, il y a eu des projets, une initiative d'un ingénieur qui pensait qu'à partir de 9 km sur la route des Kalima, on pouvait apporter l'eau potable à Kindu. Peut-être c'est ce qu'on pourra voir avec ceux qui gèrent les domaines, comment on peut permettre à toutes les communes de Kindu d'être approvisionnées. S'il y a un projet aussi dans la province de Maniema, on pourra voir avec notre entité. Et merci beaucoup, mais excusez-nous parce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin, compte tenu des quelques minutes qui nous restent. Claude, vous êtes à Isiro, en province orientale, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour l'invité.
Et rapidement aussi, en 30 secondes, Claude, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer la situation à Isiro où nous avions déjà eu les témoignages d'Aimé tout à l'heure là?
Merci Pierrot, je ne sais pas si vous me captez bien, c'est déplorable à ce siècle où nous avons tourné vers la révolution de la modernisation qu'on en discute encore sur le problème de potable. Mais à Isiro, il n'est pas rebondi sur ce que Mélina qui avait déjà dit, vraiment là. Il n'y a pas accès à l'eau potable à Isiro. Je ne saurais même pas aussi vous donner des statistiques, puisque c'est une petite partie de la population qui a bénéficié d'eau potable de la régie des eaux. Et aussi, il fallait aussi voir la qualité d'eau que donne la régie des eaux avec des tuyauteries très vieilles. L'eau, comme on l'avait souligné, l'eau vient trois fois la semaine. Le jour 24 de la semaine. Et la grande quantité de cette eau ici, partir par les métiers qui sont vieillis, qui s'assurent de passer par la main, vous n'avez pas vous ranger beaucoup de papiers.
Allez-y,
je souhaiterais que le gouvernement change quand même aussi en nous qui sommes dans à l'intérieur, parce qu'on a la vie de tout ça. Puisque là, c'est tout le monde qui a moins accès à l'eau potable ici. Il souffre beaucoup, on n'a pas d'eau potable.
Merci beaucoup, Claude. Mais je crois peut-être, comme vous l'avez dit, que vous pensez que c'est pas à Kinshasa, c'est pas tout le monde, parce que nous avons beaucoup de messages ici. Il y a Jean-Marc Massala qui est ici à Kinshasa dans le quartier Rigini. Il m'a dit tout à l'heure, bon, il est en train de se préparer pour quitter Rigini. Il disait, Rigini, c'est bon, c'était un bon quartier où tout le monde enviait, mais aujourd'hui, on ne peut pas y rester. L'eau coule à peine deux fois, trois fois, deux fois à 18h, deux fois à 3h du matin. Et notre ami Jean-Marc Massala dit, voilà, j'en ai marre de vivre à Rigini. Quelle solution faudrait-il aujourd'hui? Des fois, on me dit, mais c'est parce que vous êtes sur une montagne que l'eau ne peut pas arriver chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Giscard, vous êtes à Guémena. Giscard aussi, en bref, en 30 secondes, rapidement, on vous écoute, Giscard.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, fidèle auteur de la radio Kati. Bonjour, c'est notre invité.
Rapidement, on vous écoute.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Nous avons des. L'eau potable ici à Guémena, comme la régie des eaux. Auparavant, on vendait des 25 litres d'eau à 120 francs congolais. À la paix du temps, on a augmenté encore à 150 francs congolais. Mm-hmm. Et dès qu'on a augmenté, il y a certains gens qui n'arrivent même pas à acheter de l'eau potable. Ils veulent acheter la pluie d'eau, parce que la pluie d'eau, ça coûte moins cher. Et je ne sais pas, est-ce que on ne peut pas chercher les moyens qui aident
de résoudre ce problème
de prendre l'eau potable.
Merci beaucoup, Giscard. Si on vous écoute, Giscard, votre souci, c'est qu'il faudrait qu'on améliore. Parce que par le fait que l'eau de la régie de l'eau va coûter cher, les gens préfèrent, avec peu d'argent, aller s'approvisionner au puits. Et puis, les puits, là, on ne sait pas, comme l'a dit tout à l'heure notre ami qui nous appelait des Monabitou, beaucoup de quartiers sont des anciens cimetières, les puits sont crésés, est-ce qu'on est sûr que cette eau peut être propre à la consommation? Voilà autant de problèmes qui se posent. Nous revenons à vous, Georges Cauchy, vous avez suivi les uns et les autres, on sait que le problème se pose, mais quand même, il faut arriver à faire quelque chose pour améliorer. Quel note d'espoir les gens peuvent aujourd'hui garder par rapport à ces problèmes très sérieux d'approvisionnement en eau potable? En bref, pour conclure.
Pour conclure, je dirais que nous sommes en train de faire un effort. Si on a décidé aujourd'hui d'acheter tous ces équipements et le disséminer à travers le pays tout entier, c'est tout simplement c'est pour pallier à ces difficultés d'accessibilité à l'eau potable. Bien éventuellement, il y a d'une part les équipements et d'autre part, il y a les financements. Donc, il faut que les deux soient en adéquation. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de financements. Il faut qu'on trouve des financements avec les partenaires. C'est vrai. Mais l'État a fait un effort. Les équipements sont là. Ça peut aller partout pour réaliser des forages. Pas seulement des forages, des aménagements des sources, des adductions par gravité ou des adductions par pompage. Donc, toutes ces techniques-là, on les maîtrise. Mais il y a un problème de financement aussi qui se pose. Aux uns et aux autres, nous leur disons aussi que l'eau que nous fournissons, l'eau est de bonne qualité, dans le sens que on ne peut pas donner de l'eau à la population si les tests de potabilité ne sont pas réalisés au préalable. Nous les réalisons. Peut-être sécu, creuse plutôt, depuis Manuel chez à la maison, il peut y avoir un problème parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, de quoi tester cette eau, de quoi l'analyser. Et c'est pour cette raison-là. Mais au moins, Guémena, je comprendrai. Je comprends une chose. Parce qu'il a vu comment le coût de carburant a augmenté. Je ne sais pas de la régie des eaux, mais c'est par rapport au coût de carburant. Nous avons parlé d'énergie tout à l'heure là. Et j'ai dit qu'il faut des énergies innovantes,
merci,
notamment des énergies solaires.
Merci, ce qui peut permettre à améliorer la situation. On ne sera pas vidé toute la matière aujourd'hui, mais nous vous disons merci Georges Cauchy d'avoir fait le déplacement pour partager avec les auditeurs les préoccupations en ce qui concerne la desserte en eau potable. Je rappelle que vous êtes le directeur national de l'hydraulique rurale. Merci à toute l'équipe, Alain Goy, Julie César, qui nous ont aidé à produire cette émission supervisée par Ben Kababa. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.